Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Aimez-vous les chauves-souris ? La réponse ne ferait peut-être pas l'unanimité parmi vous. Et pourtant, les chauves-souris sont regardées par de nombreux scientifiques comme de véritables sentinelles de la biodiversité. Avant d'en parler, dans quelques minutes avec Jocelyn Boireau, grand spécialiste de ces mammifères volants au groupe mammologique breton, direction Plogonec dans le Finistère, pour suivre une campagne de recensement des grands rhinolophes, une espèce de chauve-souris rare et en danger. C'est un sujet en breton doublé en français par les équipes de Radio Carnet, votre radio associative 100% bretonnante en Cornouailles. Le personnage principal de ce reportage n'est autre qu'un certain Jean-Yves Carvarec, le président de cette radio, également fin connaisseur des chauves-souris, les Logodales.
J'en ai vu une sortir.
C'est du Bromov au Croganum.
Oui.
En Iveradec.
Bon, on va commencer le recensement. Le système de comptage, c'est à partir de la première sortie, on note sur la feuille combien de chauves-souris sont sorties toutes les minutes.
Vos laquettes vont arfoler, pizz, dut, mais.
Aïe!
Aujourd'hui, nous sommes venus compter les chauves-souris dans une vieille maison à Plogonec où s'est installée une colonie. On les compte chaque année pour savoir si leur nombre augmente ou diminue. J'avais entendu dire qu'il y en avait ici, par hasard, et quand je suis venu voir pour la première fois, il y en avait une cinquantaine. Et au fur et à mesure, leur nombre a augmenté jusqu'à près de 200. Aujourd'hui, on va voir s'il y en a plus encore. Ces animaux ne voyagent pas loin, juste 5 ou 6 kilomètres. Mais ils peuvent se regrouper entre plusieurs colonies. De l'autre côté de la ville, il y a une vieille maison où on en trouve plus de 600. On ne sait pas si quelques spécimens sont allés s'installer là-bas ou si d'autres sont venus ici. On ne peut pas savoir où elles vont précisément.
Et ici, c'est quelle espèce de chauve-souris ?
Aremazo frigribellet.
Ce sont des grands rhinolophes.
Amant, dans un timon, ne se n'est mamou. Mamou gant rivienne.
Ici, dans cette maison, il n'y a que des mères avec leurs petits. Les petits sont nés il y a un mois. Ils naissent généralement en juin. Pendant la nuit, les mères reviennent 2 à 3 fois pour allaiter les petits qui restent sous le toit, là où la chaleur s'est accumulée pendant la journée.
Ils reviennent à Jomostag de Zandouen, puis à Tom, à Ebetom et Pandé, dans un néol, dans un menglas.
Quand les mères partent, les petits se rapprochent les uns des autres comme un essaim d'abeilles sous le toit pour avoir chaud. Les mères reviennent 2-3 fois et elles rentrent vers 5h30-6h. Elles restent après toute la journée là, en attendant la nuit.
Et tu es tout dans un drôle, nanti, avec Jominiaï, Pandig, Zid, d'Arhortos et d'Ours.
Alors, ce sont des animaux qui n'aiment pas la lumière. Pourtant, on les voit souvent tourner autour des lampadaires en ville. Elles sont attirées par la lumière ?
Dis-sache d'ingargoulou ? Non,
elles sont attirées par les insectes, qui sont, eux, attirés par la lumière. Les chauves-souris ont compris qu'il y a de la nourriture autour des lampadaires en ville ou autour des maisons, et c'est pour ça qu'on les voit à ces endroits. Elles sont capables de voir, mais elles se repèrent grâce aux ondes qu'elles produisent grâce à leur bouche ou à leur nez, selon l'espèce. Les ondes leur reviennent après avoir heurté un insecte, un mur, un arbre, et les chauves-souris sont capables de reconnaître un objet mouvant ou non, grâce à ces ondes. Et elles pourront attraper l'insecte s'il y en a un. Ça va très vite, en moins d'une demi-seconde, elles sont capables d'analyser tout ça. Ça va très vite.
C'est une manne se comprenait et une en prévente gazo nijal là et des roseaux et ben il vaut pas quatre gâteaux dessus quoi. Mais en vrai il y a bu entrée quoi. En vrai, et corf une enterre seconde et analyse de gâteau mon aura bu entrée quoi. Et magnoton mais c'est fou du moment.
Elles sont nombreuses à sortir maintenant. Elles n'ont rien mangé depuis tôt ce matin.
Est-ce que tu arrives à être au niveau du minimum après d'ailleurs c'est tu
C'est un bon signe, ça veut dire qu'il y a des insectes dans le coin et qu'ils n'ont pas tous été tués par les produits chimiques.
Bon, c'est du 14 sinovat, quoi. Guiré, Contagno, il avait compté de glisser, dira qu'en tout le monde avait un remprise au gâteau, comme on a donné à l'onge.
Quand on les compte, on se place devant le point d'entrée et de sortie, mais c'est difficile de savoir où elles vont ou d'où elles viennent. Ce n'est pas pareil que pour les oiseaux qui sont bagués. Mais on ne peut pas baguer les chauves-souris, c'est trop dangereux. On a fait des essais de bagage de chauves-souris il y a près d'un siècle, mais ça les blessait. Ce sont des animaux qui ont des dents, et elles essayaient de retirer la bague parce que ça les gênait. Elles avaient des blessures aux pattes, à cause de leurs dents ou de leurs bagues. On en a perdu plusieurs milliers qui avaient été bagués. Donc on a interdit le bagage de chauves-souris.
Au Fayou, gant à Wallen, pe gant au Den, pa manio klas ten à Wallen. A setu zo bet kolet gise miliadou a miliadou de zare, va bet gwalenet, setu bet difenet gudeze laka gwalen dio. Amman e breiz zo vardro ugen spesat. Hébraïs. Et une Europe à Bays, très grande spécialité. À divers entre grandes six ou Hugen Hébraïs. À Gerbe d'Abbés, Vardro Nord.
En Bretagne, il y a environ 20 espèces de chauves-souris. Dans toute l'Europe, il y en a 30. Et dans le monde entier, on compte 900 espèces. Ici, ce sont des espèces protégées. On ne peut ni les toucher, ni les tuer, bien sûr. On ne peut pas les déranger non plus. Mais, et ça arrive quelquefois, si elles s'installent dans une maison habitée, il suffit d'appeler le GMB, Groupement Mammologique Breton, qui trouvera une solution. On peut par exemple leur construire un abri sur place pour qu'elles ne soient pas dérangées par les humains, et vice-versa. Parce qu'on ne peut pas les déplacer. Une fois qu'elles sont installées dans un endroit, c'est impossible de les déplacer.
La cagnot de Jom Bazarachet, et m'avait fait dire qu'il y a dans le but gâteau, et m'avait fait dire qu'il y a dans le but. C'est une moyenne zone de gâteau de Discoulmou qui s'est. Change place d'eau n'est que possible. Alors, j'ai installé un tuménage et dit beau sup, change place d'eau.
Voilà pour ce reportage sur le recensement des chauves-souris à Plogonnec dans le Finistère, une réalisation de l'équipe de Radio Carnet, votre radio associative bretonnante à Plonéis, près de Quimper. Pour parler désormais plus précisément du rôle important des chauves-souris pour la biodiversité, nous sommes en liaison avec Jocelyn Boireau, chargé de mission études et conservation, responsable des actions chauves-souris dans le Finistère au GMB, le groupe mammologique breton. Jocelyn Boireau, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, comment réagissez-vous au reportage que l'on vient d'entendre à l'instant ?
Pour moi, ça évoque plein de choses ce reportage, parce que c'est un petit peu mon cœur de métier. Et pour le coup, je connais les principaux protagonistes, à savoir Jean-Yves, qui témoigne, et puis les grands rhinolophes qui l'observent. C'est des animaux que je suis depuis de nombreuses années. Et en plus, la zone sur laquelle il travaille, c'est des sites suivi par le groupe mammologique breton depuis un petit bout de temps.
Les grands rhinolophes, c'est une espèce particulière dans le monde des chauves-souris ?
Alors, les grands rhinolophes, c'est une espèce de chauve-souris qui est rare et menacée. Et ce qui est de particulier, c'est la population locale, en fait. Cette chauve-souris, on estime qu'il y a environ 40 000 individus en France. Sur ces 40 000, il y en a environ 8 000 en Bretagne. Et sur ces 8 000, on en a 4 000 dans le Finistère. Donc, il y a un gros enjeu au niveau de la région Bretagne pour la conservation de cette espèce. Et c'est ça qui en fait une espèce un peu emblématique de notre territoire.
Alors justement, ce type de recensement que l'on vient d'entendre dans ce reportage, est-ce que c'est justement pratiqué fréquemment sur le territoire breton? Et puis, quelle est l'utilité justement de recenser ces animaux?
Bien, les chauves-souris aujourd'hui, c'est des espèces qui sont rares, menacées, pour certaines d'entre elles en régression. Et ça, on a mis du temps à s'en apercevoir finalement, puisque c'est à partir des années 80-90 qu'il y a eu mis en place des travaux de suivi des populations, quoi. Et donc aujourd'hui, ce travail de suivi qui était un petit peu ponctuel, réalisé par des bénévoles passionnés, des naturalistes alertes, dans les années 80, ben aujourd'hui, on l'a vraiment mis en place d'une manière assez systématique. Et donc, par exemple, les colonies de grands rhinolophes en Bretagne, les colonies de reproduction, elles sont contrôlées tous les étés. Donc, il y a environ 35 colonies connues en Bretagne. Donc, c'est ce qu'observe et se présente Jean-Yves. Hein. On compte les animaux adultes qui sortent, et puis après, on monte dans les combles pour compter les jeunes. Et on fait la même chose en hiver. Donc là, à ce moment-là, les chauves-souris, elles sont dans beaucoup plus de sites, elles sont beaucoup plus dispersées. On va les trouver dans des blocos, des ardoisières, des caves, des grottes. Et là, par exemple, dans le Finistère, on fait ça tous les derniers week-ends de janvier. On mobilise tous les bénévoles, mais aussi tous nos partenaires associatifs, institutionnels. Et là, dans le Finistère, on va contrôler plus de 300 sites en moins d'une semaine.
En quelques mots, c'est quoi l'importance justement de ces recensements pour cette problématique chauve-souris en Bretagne?
Il est important de savoir l'état des populations pour savoir s'il y a des enjeux ou s'il y a des actions à réaliser pour protéger les différentes espèces. Alors pour mémoire, en Bretagne historique, on a aujourd'hui 23 espèces de chauve-souris qui sont identifiées. Et donc, certaines espèces sont très rare, très menacé, notamment le grand rhinolophe, qui a connu une importante régression de ses effectifs, bon, du fait de son écologie, une biologie très, très particulière. Et puis, il y a d'autres espèces dont les populations se portent plus ou moins bien, et puis d'autres espèces vraiment où là, on a des effondrements très, très importants. Et c'est tout ce travail d'inventaire qu'on réalise et de suivi qui va permettre de mettre en place des indicateurs. Et d'une manière un petit peu paradoxale, les espèces aujourd'hui très rares, très menacées, comme le grand rhinolophe, elles ne se portent pas trop mal depuis une quinzaine d'années, parce qu'on a fait de nombreuses actions conservatoires, on pourra revenir dessus. Par contre, des espèces dites communes, comme la pipistrelle commune, qui est la petite chauve-souris qui tourne le soir autour des lampadaires, nos différents travaux montrent que c'est une espèce, alors qu'on l'imagine très très abondante, elle est toujours abondante, mais les populations sont en train de s'effondrer d'une manière drastique. On estime qu'il y a environ moins 50% des effectifs en l'espace de 15 à 20 ans.
Comment on explique cet effondrement de certaines espèces, justement, de chauves-souris que vous venez de citer?
De la même manière qu'on explique l'effondrement de l'ensemble de la biodiversité à travers la planète Terre. C'est l'action de l'homme, prioritairement. Et donc concrètement, en Bretagne, ça va être principalement la destruction des milieux naturels, destruction des zones humides, arasement des haies et des talus, et puis modification des pratiques forestières, hein, des boisements de feuillus mixtes qui sont remplacés par des boisements, des monocultures de résineux, par exemple. Et puis, d'une manière assez dramatique, l'usage massif des pesticides qui font disparaître la ressource en nourriture, les insectes, et puis qui vont contaminer l'ensemble des milieux naturels. Et puis à cela va s'ajouter d'autres éléments, les impacts éoliens, la pollution lumineuse, les percussions entre les voitures et les chauves-souris, la destruction aussi de tous les micro-gîtes qu'on peut avoir dans les bâtiments, par exemple quand on va restaurer des maisons. Donc tout ça, mis bout à bout, fait qu'on a des espèces qui sont plutôt pas bien portantes pour certaines d'entre elles.
Alors, c'est vrai qu'il y a aussi certains particuliers qui font des misères aux chauves-souris. On dit que ces chauves-souris ont souvent mauvaise presse auprès du grand public. C'est le cas, en tout cas, dans notre monde occidental. Comment l'expliquez-vous, le fait qu'on ne voit pas ces chauves-souris, ces animaux, ces mammifères, comme étant à protéger forcément, mais plutôt comme parfois même comme des nuisibles ?
C'est lié à une méconnaissance. Donc, les chauves-souris, c'est des mammifères qui vivent la nuit, donc on les observe rarement. On fait une mauvaise association, ne serait-ce que par le nom, entre chauves-souris et souris, alors que c'est des espèces qui n'ont strictement rien à voir en termes de biologie. Pour information, une chauve-souris fait qu'un seul petit par an. Donc, c'est des espèces qui sont très, très rares et avec un taux de reproduction très faible. Et puis, du fait de cette biologie un peu méconnue, se sont greffées un peu des idées contes et légendes. Hein, les chauves-souris qui s'accrocheraient dans les cheveux, évidemment, ces chauves-souris, non, elles ne s'accrochent pas dans les cheveux. Et puis enfin, dans notre culture judéo-chrétienne, on a toujours représenté le diable et ses associés avec des ailes de chauves-souris, et puis les anges plutôt avec des ailes d'oiseaux. Donc ça, c'est fait. Ça fait que effectivement, on peut imaginer. Enfin, il y a un contexte un peu négatif concernant les chauves-souris. Mais très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de dépasser ça. Et vraiment, en plus de 20 ans d'activité autour des chauves-souris, d'activité professionnelle au sein du groupe Mammalogique Breton, moi, j'ai vraiment pu observer une modification de la perception des chauves-souris. Et ça, on s'en rend compte. Parce qu'on a ce qu'on appelle un service SOS chauve-souris. C'est notamment des gens qui ont des problèmes de cohabitation avec des chauves-souris. Du jour au lendemain, ils se rendent compte qu'ils ont des chauves-souris chez eux. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas si c'est justement des espèces qui peuvent poser problème, etc. Et donc, ils nous consultent. Et il y a 20 ans, l'essentiel des appels, c'était « J'ai des chauves-souris, venez me débarrasser d'elles ». Et aujourd'hui, la grande majorité, 70% des appels qu'on reçoit, c'est plutôt « J'ai des chauves-souris chez moi ». Je dois faire des travaux, je veux les préserver. Et donc, voilà, cet espace, cette image négative, elle est vraiment en train de changer. Je pense que c'est le renouvellement des générations, une connaissance plus facile, un accès à la connaissance plus facile concernant les chauves-souris, tout simplement avec Internet. Et puis, quand même, une prise de conscience par la société de l'effondrement du vivant. Et donc, on essaye aujourd'hui d'essayer de préserver un petit peu ce qu'on a autour de chez nous. Il n'y a plus forcément ce réflexe de dire, voilà, c'est des nuisibles ou quoi que ce soit.
Alors justement, pour Jocelyn Bourreau, pour continuer à réhabiliter ces chauves-souris, qu'est-ce qu'on peut dire de ses principales qualités ? Est-ce que ce n'est pas finalement un mammifère assez extraordinaire ? Déjà, pour la simple et bonne raison que c'est le seul mammifère volant.
Bah oui, tout à fait. C'est en ça déjà qu'il est extraordinaire. C'est le seul mammifère volant au monde. On a plus de 1500 espèces de chauves-souris à travers la planète. Donc, c'est des animaux qui ont su s'adapter à plein de types de milieux et de ressources en nourriture, par exemple. Donc, à travers la planète, on va avoir des chauves-souris qui vont être frugivores, d'autres qui vont consommer du pollen, d'autres qui vont manger des poissons. Il y a évidemment des chauves-souris vampires. Il y a 6 espèces en Amérique du Sud qui vont c'est des toutes petites chauves-souris qui vont consommer du sang. Et chez nous, en Europe, c'est des animaux strictement insectivores. Et donc, elles vont chasser les insectes. Et pour chasser ces insectes, les chauves-souris européennes, elles émettent des ultrasons. Donc, ça aussi, c'est source d'émerveillement et de découverte. Et notamment, dans le reportage qu'on a entendu, il y a un moment où on entend des petits. Et en fait, ça, c'est un détecteur d'ultrasons qui permet de rendre audibles les ultrasons qui sont des sons inaudibles. Et c'est les grands rhinolophes qu'on entend derrière Jean-Yves. Là. Il doit avoir un détecteur à la main. Donc, ce système d'ultrasons, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui nous permet justement de faire des inventaires parce qu'on s'est rendu compte que chaque espèce de chauve-souris émettait une fréquence et un type de son différent. Et puis, il y a aussi la biologie en elle-même. Un taux de reproduction, j'ai déjà évoqué, très, très bas, un seul petit par an. Mais par contre, une durée de vie qui est très importante. Un grand rhinolophe, c'est une espèce de chauve-souris qui peut vivre jusqu'à 30 ans. Hein, ça a déjà été observé, c'est des records, évidemment. Et puis, cette capacité, pour survivre à l'absence d'insectes, les chauves-souris, elles ne vont pas migrer, comme font les hirondelles. Mais par contre, elles vont chercher des endroits très frais, très calmes et très sombres, comme les blocos, les grottes, les caves. Et elles vont s'y suspendre. et pendant jusqu'à 6 mois de l'année, elles vont rentrer en léthargie. Donc leur rythme cardiaque va s'abaisser, leur flux sanguin va diminuer, leur température va chuter à environ de 10 degrés. Et ça aussi, c'est une adaptation qui est extraordinaire et qui est source d'objets de recherche, d'interrogations par les scientifiques, parce que c'est des perspectives colossales en termes de la capacité de l'humanité à sortir de la planète Terre, quoi. Si on veut voyager dans l'espace, il faudra mieux qu'on comprenne les chauves-souris. Ça paraît une évidence.
C'est absolument passionnant ce qu'on vient d'entendre. Ça, ce sont les qualités intrinsèques des chauves-souris, leur originalité. Mais certains scientifiques, en plus, parlent de ces chauves-souris comme de véritables sentinelles de la biodiversité. Qu'est-ce qu'elles apportent à différents niveaux, aux écosystèmes et à la biodiversité dont on parle énormément aujourd'hui?
Ouais. Alors, c'est effectivement c'est considéré un peu comme des indicateurs ou des espèces dites parapluies. C'est-à-dire que quand ces espèces-là s'effondrent, ça veut dire que tout l'écosystème est en train de s'effondrer. C'est un peu ce que je vous disais au début. Pourquoi ? Donc, des animaux strictement insectivores, donc ils vont être liés à des ressources en nourriture, déjà qui sont des animaux qui doivent eux-mêmes se développer sur des milieux naturels plutôt sains. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que chaque espèce de chauve-souris va avoir une niche écologique bien particulière. Chaque espèce va rechercher un type d'insecte. Par exemple, on va voir la barbastelle, qui est une petite chauve-souris forestière. 90% de son régime alimentaire, c'est des microlépidoptères, des tout petits papillons. On va avoir le murin à oreilles échancrées, aussi une chauve-souris qu'on trouve dans le Finistère, qui va manger essentiellement des araignées. Alors, les araignées qui ne sont pas des insectes, mais bon, voilà. Il va manger des araignées. On va avoir le grand rhinolophe qui va manger des gros papillons et des aphodus. Les aphodus, c'est des bousiers qui vont trouver autour des bouses de vache. La pipistrelle qui va manger des petites mouches, on va dire, des moustiques. Et en fait, chaque chauve-souris va avoir son spectre alimentaire, va avoir son type de milieu qu'il va exploiter. Et finalement, plus on va avoir d'espèces de chauve-souris différentes à un endroit, plus ça veut dire qu'on a des milieux naturels qui sont diversifiés, quoi. Donc la diversité des espèces de chauves-souris sont des indicateurs de la qualité environnementale. Et vu qu'ils ont besoin de milieux naturels sains, peu pollués, eh bien, plus les chauves-souris vont être abondantes, plus on aura des milieux naturels de qualité.
Donc ça veut dire concrètement que si certaines espèces disparaissent aujourd'hui, ça peut menacer à la fois la chauve-souris comme indicateur de la biodiversité, mais également nuire à nos milieux naturels.
Et puis nuire à la survie de l'espèce Homo sapiens, hein. Très clairement. Quand on a des milieux naturels qui sont tellement pollués au point de ne plus offrir de ressources en insectes aux chauves-souris, ça veut dire que l'eau est polluée, l'air est pollué, et il ne faut pas se leurrer. Nous, on vit dans des milieux naturels aussi. On respire l'air, on boit de l'eau, on va manger des produits alimentaires qui sont élevés, qui poussent dans ces milieux-là. Donc, nous-mêmes, on est victimes de l'effondrement de la biodiversité, ou du moins de ces pollutions.
Donc, d'où la nécessité absolue de préserver cette espèce comme d'autres, mais la chauve-souris a de nombreuses qualités. Comment vous, au groupe mammalogique breton, vous agissez justement pour tenter de sauver ces différentes espèces de chauve-souris si bénéfiques à la biodiversité?
Déjà, dans un premier temps, on mène des actions d'inventaire où on va pouvoir justement identifier quelles sont les espèces qui sont présentes, où sont les principaux enjeux de conservation, et puis mettre en place des suivis sur le long terme pour être réactif, justement, quand il y a des espèces qui vont moins bien, comment est-ce qu'on peut identifier les actions à faire par la suite. Donc là, l'aspect connaissance, et cette connaissance, on va aussi, on a fait des travaux, par exemple, de radiopistage pour connaître les milieux de chasse qui étaient utilisés par les femelles. On a analysé le régime alimentaire de certaines espèces de chauves-souris pour justement mieux préserver leurs habitats. On travaille sur les déplacements des chauves-souris. Donc on a fait, à l'échelle régionale, l'identification de ce qu'on appelle la trame, donc les axes de circulation de ces espèces. Donc ça va être vraiment la connaissance. Et puis, on a tout un tas d'actions conservatoires. Tout simplement, on a créé des réserves. Alors, ça va être des conventionnements avec des propriétaires privés. On passe une convention et on met, en place une grille sur des cavités souterraines qui permettent aux chauves-souris d'aller hiverner, mais pas au public de les déranger, parce que c'est un moment où elles sont sensibles. où là, je suis au Fou. Et donc, l'église du Fou, il y a un arrêté préfectoral de protection de biotopes sur les combles de l'église. C'est-à-dire que l'église, elle accueille une colonie de grands rhinolophes. On peut tout à fait imaginer des travaux d'entretien de la toiture, de restauration du porche, etc. Par contre, quand il y a des travaux, on me consulte pour que je puisse accompagner les travaux en disant, ben voilà, la colonie, elle présente telle date à telle date, ben, il faut éviter des travaux dans cette période-là. Si vous voulez refaire la charpente, ben, il faut utiliser des produits non traités. Il ne faut pas mettre de lumière qui éclaire directement la sortie des chauves-souris, parce que là, les chauves-souris vont déserter le gîte. Donc voilà, on fait de l'action aussi concrète, soit d'aménagement, soit de restauration. On a aussi acquis des bâtiments à l'abandon où il y avait des populations de chauves-souris. On les a restaurés pour en faire des réserves.
Ce travail qui est effectué par des professionnels et souvent par de nombreux bénévoles, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement, nous, particuliers, pour enrayer à notre niveau cette chute des effectifs ?
Alors, moi, il me semble que la première chose, c'est d'avoir un regard bienveillant sur les chauves-souris, mais puis d'une manière générale, la biodiversité. Changer le regard sur le vivant me semble extrêmement important. À partir du moment où on a un petit jardin ou même un balcon, eh ben, on peut devenir des gardiens nous-mêmes de la biodiversité en ayant un balcon fleuri, un jardin où on traite, où on met pas de pesticides, où on va mettre quelques arbres fruitiers qui vont avoir pas mal de fleurs et favoriser la présence d'insectes pour les chauves-souris, mais aussi peut-être de fruits pour les oiseaux. Donc ça, c'est ce regard. C'est évidemment ne pas utiliser de pesticides dans l'entretien de nos propriétés. Essayer de préserver des gîtes pour les chauves-souris. Alors ça peut être des petits accès à la toiture, mais ça peut être aussi des arbres creux. Ça peut être aussi, pourquoi pas, poser des nichoirs à chauves-souris. On a des plans disponibles sur notre site internet. Et puis, peut-être que d'une manière un petit peu plus globale, je dirais que, comme j'ai expliqué, on a des raisons de l'effondrement des chauves-souris, mais de tout le vivant, hein, sont des facteurs un peu structurants de notre société. Manger bio, travailler avec des circuits courts, manger des légumes de saison et produits localement, tout ça participe à un rééquilibrage un peu du vivant et à des actions positives pour notre environnement local.
Pour que nos auditeurs puissent aller plus loin chez eux, pour comprendre encore plus précisément les enjeux si importants de la préservation des chauves-souris pour la biodiversité, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller comme site de référence ou ouvrage intéressant à la portée de tout le monde ?
Alors, je ne peux que vous conseiller, dans un premier temps, le site du groupe mammalogique breton, gmb.bzh. Donc on a, à travers notre site, déjà de l'information générale sur les chauves-souris, mais vous allez aussi y trouver une foire aux questions pour répondre si vous avez des interrogations quant à la cohabitation avec des chauves-souris, des informations sur leur biologie, des ressources pour créer des nichoirs, et puis tout un tas de travaux qu'on a pu faire, mener d'études, de synthèses, de suivi des populations, si vous voulez aller plus loin. Et puis après, là c'est du copinage, je ne peux que vous invité à lire le livre de Laurent Arthur et Michel Lemaire, donc des amis, Les chauves-souris, maîtresses de la nuit, édition Biotop.
Jocelyn Boireau, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes donc chargé de mission, études et conservation, responsable des actions chauves-souris dans le Finistère au GMB, le groupe mammalogique breton, gmb.bzh. Merci également à Radio Évasion, votre radio associative locale au Fou et sa région dans le Finistère pour l'établissement de ce duplex. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro de Biodiversité en air. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CorLab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.